En pensant au culte d'aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on est proche de Noël. Et on a ces deux histoires dans Luc et dans Matthieu, les bergers et les anges qui sont venus. Et alors moi, j'ai retenu ces paroles de Matthieu, chapitre 2, verset 2, des mages qui, eux, n'ont pas eu la même chance que les bergers, puisque les bergers sont allés directement voir Jésus. Mais là, les mages, ils viennent voir Pilate et lui disent « Où est le roi des Juifs ?» Et le roi des Juifs, c'était le titre de Pilate qui lui avait été donné. « Qui vient de naître ?» Donc, ils savaient que ce n'était pas lui. « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, ma question, c'est venu pour adorer. Et là, Pilate pouvait avoir, mais c'est moi le roi. Hérode, pardon. Hérode, Pilate, excusez-moi. Ça part mal. Hérode pouvait dire, c'est moi le roi. Et finalement, ils entendaient bien que ce n'était pas lui devant lequel ils allaient adorer. Mais la question, peut-être que Hérode ne comprenait pas, c'est qu'est-ce que veut dire adorer ? Adorer, le dictionnaire dit que c'est un sentiment d'amour passionné, de très grande affection. Un autre dictionnaire, je crois que c'est le Littré, il dit « dévotion qui consiste à rendre un hommage ininterrompu ». Wow ! Le dictionnaire biblique, il dit « c'est l'humble réponse de l'homme régénéré envers Dieu, basée sur l'œuvre de Dieu, achevée par l'œuvre de Dieu en nous et dirigée vers Dieu ». Elle s'exprime par nos lèvres et par une vie consacrée à son service. Waouh ! C'est l'humble réponse d'un homme régénéré ou d'une femme basée sur l'œuvre de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. Elle est achevée par l'œuvre de Dieu. C'est lui qui le fait. Elle dirige l'homme vers Dieu, pas vers lui. Et elle s'exprime par ses lèvres. Voilà ce qu'étaient venus faire les mages. Ils avaient été touchés par Dieu. Ils attendaient Dieu. Et ils se sont dirigés vers Dieu. Quand on emploie le mot « adore », aujourd'hui, on n'a pas tout à fait ce sens. Le sens de l'adoration n'est plus tout à fait le même. Et même nous, chrétiens, on a un petit peu érodé, taraudé, abîmé ce terme « adorer ». Mais une petite réflexion. Alors, j'ai noté là, vous ne les voyez pas parce qu'ils ont écrit en jaune, mais tous les synonymes qui vont avec « adorer », c'est « admirer ». C'est aimer, c'est bénir, c'est chérir, c'est déifier, c'est glorifier. Ça va jusqu'à idolâtrer. Prier, raffoler, servir, vénérer. On en a d'autres mots. Et finalement, dans notre vie, qui mettons-nous en premier ? Dieu ? Ou nous ? Et souvent, notre adoration est un petit peu endommagé envers Dieu. Mais, petite réflexion avant d'aller plus loin, ceux qui vivent le plus loin des moyens de la grâce sont souvent les plus assidus à apprendre et à connaître Christ et son salut. Les mages sont venus d'Orient. Ils ont marché, marché, marché pour aller rencontrer Jésus. Et la question, c'est où est le roi des Juifs ? On peut être à côté de quelque chose de tellement bien, mais on ne sait pas où il est. On peut passer tous les jours à côté de quelqu'un sans le voir. Et là, cette réflexion des mages m'a interpellé en disant, mais c'est souvent ceux qui viennent de très très loin, qui viennent chercher finalement ce que nous avons à côté de nous, non ? Nous avons un Dieu puissant qui est venu sur la terre, qui a décidé de faire sa demeure en nous. Et finalement, c'est souvent d'autres personnes ou d'autres peuples qui prennent la bonne direction. Une autre réflexion, nous devons apprendre Christ en considérant la parole de Dieu comme une lumière qui brille dans un lieu sombre. On aime allumer les guirlandes à Noël. Elles sont éteintes du reste aujourd'hui. On aime allumer, pourquoi ? Pour annoncer que la lumière brille. Mais alors pourquoi elle reste éteinte 11 mois ? Pourquoi est-ce qu'on l'éteint ? Je posais cette question la dernière fois, je crois, dans mon message. Pourquoi est-ce qu'on l'éteint ? Parce que la lumière, elle est là toute l'année. Là, on annonce, oui, mais c'est la naissance qu'on annonce, Jean-Claude. Oui, mais justement, elle est là ! Jésus est venu, la lumière est venue. Et la lumière brille dans les ténèbres. Il nous a mis lumière, il ne nous a pas demandé d'être éteint, mais d'être allumé. On ne met pas un flambeau sous la table, mais on le met sur la table. Nous sommes oublieux. Les mages sont venus adorer. Ils n'étaient pas exceptionnels, ces mages. Ce n'étaient pas des gens parfaits. Ils sont venus parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et voilà ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, et vous viviez dans le péché en suivant des forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là. Quand nous vivions selon les désirs mauvais, nos désirs mauvais, nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. L'apôtre Paul pointe d'abord les Éphésiens et après il dit, mais je vous rassure, j'en faisais partie aussi. Je n'étais pas meilleur que les autres. Ouais. Vous étiez morts, nous aussi, nous en faisions partie. Pas de différence. Mais rappelez-vous d'où vous venez. C'est pour ça que vous êtes venus adorer. C'est parce qu'il y avait un avant et il y a un après. Mais la bonne nouvelle, vous savez, quand on annonce une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle, en principe. Mais, Éphésiens 2 continue au verset 4, il dit, « Mais Dieu est riche en pitié, nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi il nous a donné, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort. Et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Et là, le petit verset entre parenthèses, c'est moi qui le rajoute, c'est son cadeau. C'est son cadeau.
Quand on voit marqué sur la boîte, c'est marqué mon cadeau.
Alors mon cadeau, ça peut être mon cadeau. Mais ça peut être le cadeau de celui qui donne aussi. Vous avez réfléchi à ça ? Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, on nous offre des cadeaux. D'accord ? Qu'on va vite revendre. La semaine prochaine, le 26, les magasins vont voir arriver les gens qui ont reçu des cadeaux en disant « J'en veux pas. Donnez-moi mon argent. » C'est vrai. Si ça te plaît pas, je t'ai laissé l'étiquette. Si ça te plaît pas, tu vas le changer. Tout le monde va changer son truc. Mais le cadeau que Dieu nous donne, on ne peut pas le changer. Et vous savez, une chose qu'on va apprendre aujourd'hui, j'espère, c'est que quand c'est marqué « c'est mon cadeau », c'est Jésus qui le tient. C'est pas le monde individualiste qui prend sa boîte et qui dit « finalement, je ne vais même pas ouvrir la boîte. Finalement, ça ne m'intéresse même pas de savoir ce qu'il y a dedans. » Mais c'est Jésus qui dit « regarde, c'est mon cadeau. » Et des fois, on ne pense pas tellement aux personnes qui nous ont offert le cadeau. Et on est bien embarrassé le jour où ils viennent nous voir en disant « ah, elle, je sais pas où il est. Chérie, t'as fait quoi avec le... » Et il y a notre femme qui dit « mon cadeau. » C'est le cadeau de Dieu. Et regardez bien ce qu'il est dit. « Vous êtes sauvés. » Grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. C'est pas vous n'êtes pas acheté un cadeau. Et c'est Dieu qui nous a fait un cadeau. Et le cadeau le plus précieux, c'est le salut. Le salut. Être sauvé. Arraché de ce monde de ténèbres. De ce monde qui va disparaître. C'est ce que Dieu a fait. Ce salut ne vient pas de vous, ne vient pas par vos actions, donc personne ne peut se vanter. Personne. Oh, moi j'ai toujours grandi, j'ai toujours fait des bonnes choses. Ça ne m'a pas sauvé. Oh, moi j'étais tout le temps gentil. C'est pour ça que Dieu m'a choisi. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on était gentils, meilleurs, parce qu'on avait un quotient intellectuel supérieur, inférieur, parce qu'on était plus pauvres, plus riches. Il nous a choisis parce que nous étions pécheurs. Ça fait du bien de temps en temps de penser qu'on n'était pas meilleur que les autres, non ? Que Dieu n'a pas choisi l'élite pour être sauvé, mais les pires. Et nous étions de ceux-là. Alors, si on réalise, comme les mages, que quelqu'un est venu à notre place, si on réalise que nous étions tellement mauvais, et si on réalise que Dieu nous offre le salut, alors Romains 8, 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que les intentions... Alors j'ai choisi spécialement ce matin Parole de vie. Parce que je trouve que cette version, même si ce n'est pas ma version favorite, c'est une version qui exprime bien le texte, sans le dénaturer, même si ce n'est pas des mots tout à fait comme les nôtres. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes dont Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Ah, promesse. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes sont à l'origine de tout. Dieu surveille. Dieu est en contrôle. Dieu a toujours le contrôle de notre vie. C'est un beau cadeau, ça. Savoir que je ne suis pas tout seul, c'est fini. Le jour, et même avant que j'accepte Jésus-Christ, Dieu il me regarde. Et Dieu me préserve. Et Dieu me protège. Si Dieu enlevait sa protection, mes amis, oui, oui, ça serait chaud. La première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu du cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu a prouvé son amour alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a offert son cadeau. alors que nous étions encore ennemis, alors que nous étions encore pécheurs. Ou peut-être aujourd'hui, il nous offre ce cadeau alors que nous sommes encore pécheurs. Peut-être il y a des amis ici aujourd'hui qui disent « Mais Dieu ne m'offre jamais un cadeau. Dieu ne s'occupe de il me s'occupe jamais de moi. Dieu s'occupe tellement de vous qui vous a amené là aujourd'hui. Dieu, il a tellement soin de vous qu'il dit « Tiens, va faire un tour au 177, j'ai un message pour toi. » Vous n'avez jamais pensé à ça ? Vous n'avez pas pensé à ça ce matin en disant « Encore aller à l'église. » Dans 2 Timothée 4,8, il est marqué « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. » C'est encore lui qui me la donnera. Ce n'est pas moi qui vais la prendre. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Toute chose concourt, ce que l'oreille n'a pas vu, Dieu le prépare pour ceux qui l'aiment. Une couronne nous attend. Mais c'est cette couronne que Dieu va nous remettre lui-même. Nous n'allons pas arriver en disant « Je l'ai mérité ». Nous n'allons pas arriver dans ce ciel en disant « Bon Jésus, la couronne, ça vient là ». Mais humblement, nous irons vers notre Dieu qui nous remettra ce qu'il a à nous remettre. C'est pas un Dieu de cadeaux. C'est pas un Dieu extraordinaire qui, lui, nous offre ce que nous ne méritons pas. Du reste, cadeau. Un cadeau, je l'ai déjà dit, cadeau, ça ne se mérite pas. C'est quoi qui se mérite ? Des récompenses. Mais un cadeau, ça ne se mérite pas. Souvent, hein, quand on est enfant, nos parents ils nous disent « Je t'offre un cadeau, hein, mais tu ne mérites pas. Hein. » Ben, je sais, c'est pour ça que tu m'en offres un. Sinon, tu ne m'en donnerais pas un si je le méritais. Tu me donnerais une récompense. Et ce n'est pas la même chose. La récompense de ce que nous étions, c'était la mort. Le cadeau de Dieu, c'est la vie. Ah, vous avez réfléchi à ça ? La récompense, c'est la mort. Le cadeau, c'est la vie. Oula. Dans l'autre texte, il est marqué quoi ? Il est marqué que nous avons besoin d'un sauveur. Pourquoi ? À cause de notre corruption dans le péché. J'hésitais où ? Par le péché. De notre, nous avons besoin d'un, on n'a pas besoin d'un Dieu. Je vous choque ? On a besoin d'un sauveur. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu existe. Et ils ont besoin de savoir que Dieu existe. Mais ça ne change rien. Ni à leur qualité de vie sur la terre, ni à leur destination. Nous, on a besoin d'un sauveur. Et on verra plus tard qui va devenir notre Seigneur. Vous voyez la différence ? Parce que si vous sortez en disant, le pasteur, il a dit, on n'a pas besoin de Dieu. Alors là, si vous appelez Henri ou Powell, je vais être viré. Verset 2, il dit, nous avons besoin d'un sauveur à cause de notre captivité à Satan. Nous sommes retenus captifs. Et une chose que le diable ne veut pas, c'est nous libérer. Il veut le paiement d'une grosse caution. Et encore, même avec le paiement, il ne nous libérera pas. Verset 3, nous avons besoin d'un sauveur à cause de notre condamnation à l'enfer. Ouh ! Condamnation, mort dans le péché, en captivité d'une puissance étrangère, enfant de colère. Voilà notre statut. Sans Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Et souvent, quand on se pose la question, ou quand on parle des fois avec des amis qui pensent être chrétiens, tout ça, là, c'est même pas, ça fait même pas partie de la liste. Oh, moi, ça va. Corrompu par le péché, captif par Satan, enfant de colère, condamné à mort. et plus qu'à la mort, à l'enfer, à brûler. Waouh, quel message de Noël, Jean-Claude, tu nous rassures. Mais, rassurez-vous, mais Dieu qui est riche en miséricorde par le grand amour par lequel il nous a aimés, même quand nous étions morts par nos offenses, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce que tu es sauvé et nous a ressuscité, nous a fait asseoir en lui. Voilà le mais. Voilà le cadeau. Alors que nous étions, regardez bien, hein, même quand nous étions encore morts, il n'a pas attendu que nous soyons vivants. On ne pouvait pas l'être. Nous ne pouvons pas, en dehors de Christ, être vivants, mes amis. Ça a l'apparence, mais ce n'est pas la vie. Mais... Alors écoutez, nous étions morts, mais Dieu nous a fait revivre. Nous étions captifs du prince de la puissance de l'air, réduits à l'esclavage contre notre volonté. Mais Dieu nous a soulevés avec le Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Vous n'êtes plus là, mes amis. Ça y est, il est fatigué ce matin. Vous êtes assis au ciel. Dieu nous a préparé. Et tout à, vous avez vu comment le Seigneur il met les choses en place. Tout à l'heure, Pierre, Jésus a dit à ses disciples quoi, avant la Sainte Cène là, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Ah, nous sommes assis avec lui. Nous avons notre place de réservée. Waouh. Vous pouvez la voir. Oh, moi, j'aimerais mieux celle-là. Ou alors celle-là. Ou alors au fond là-bas, dans le radiateur. Je vous rappelle les mesures, hein, un jour, c'est énorme. Nous étions des enfants de colère, méritions une éternité dans les tourments de l'enfer, mais Dieu, au lieu de déverser sa colère, Dieu va passer l'éternité. Alors, écoutez bien ça. Dieu va passer l'éternité montrant les richesses incommensurables, je n'ai pas trouvé d'autre mot, de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je reviens à mon cadeau. Il est beau, hein? J'aimerais rien bien savoir, hein? C'est pas rempli de chocolat ni de bonbons. Ah non, dommage. Quand j'ai un cadeau, je me dis, je vais vite l'ouvrir, je veux savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Et bien, la différence avec le cadeau que Dieu nous donne, on a déjà les bénéfices de la vie ici. Mais le texte là, d'Éphésiens, il nous dit que Dieu va passer son éternité avec nous. À ouvrir la boîte et de dire, tu veux savoir vraiment tout ce qu'il y avait dans la boîte, ben regarde, et c'est lui qui va ouvrir et il va dire, tu vois, la première chose que je t'ai donnée, c'était la vie éternelle. La deuxième chose, Pierre te l'avait dit, tu te rappelles, au culte, sa présence constante. La chose que je t'avais aussi donnée, c'est la résurrection. Tu n'es plus mort, tu es vivant. Puis tu sais ce que je t'ai donné aussi, c'est l'espérance. Puis tu sais, même si tu fais un peu la tête, je t'ai aussi donné la joie. Et puis, chaque matin, j'ai cru comprendre que chaque matin, tu pouvais voir mes bontés renouvelées. Puis tu sais, très souvent, je t'ai pardonné. Parfois, j'ai réussi, parce que tu y as cru, à te donner ma paix. Puis tu sais, dès le début, il y a quelque chose qui était là tout le temps. C'était l'amour. Mais avant toute chose, pour que tu puisses comprendre toutes ces choses, tu sais, je t'ai apporté la foi. C'est un cadeau. Et alors, pour que tu puisses attendre, je t'ai aussi appris la patience. Mais il y a plus que ça dans la boîte. Et ça va prendre l'éternité. Imaginez notre Dieu de nous distribuer ce cadeau. De passer son éternité à nous montrer c'est son infinie richesse, son infinie bonté. Notre temps sur cette terre est court pour l'apprécier. Mais Dieu se réserve l'éternité pour le faire avec nous. Nous avons des traditions, n'est-ce pas, de donner nos cadeaux aux gens. Pourquoi cette année, celui qui offre le cadeau ne puisse pas prendre le temps de dire pourquoi je t'ai offert ce cadeau et qu'est-ce qu'il y a derrière? Dieu veut passer son éternité. Dieu est tellement aimant qu'il veut passer son éternité avec nous, à nous montrer combien il nous aime, combien il nous a aimés. Alors, ça paraît facile comme ça, n'est-ce pas? De dire, il y a un cadeau, Dieu l'offre à tout le monde, mais moi je ne l'ai pas pris. Alors peut-être il y en a certains ce matin qui se disent, moi de toute façon je suis mort. Et quand on est mort, on n'a aucun espoir, n'est-ce pas? Vous dites, je suis captif, je peux pas, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé d'arrêter. J'ai déjà essayé de me sauver. Mais je suis captif. Aucun espoir. Vous dites, de toute façon, je suis en enfer. Déjà sur terre, c'est déjà l'enfer, alors ça peut pas être pire. Et de toute façon, je suis condamné. Aucun espoir. Mais Dieu, oui mort, oui en captivité, oui condamné, mais Dieu, et ce Dieu qui nous étonne, non? Revenez 2000 ans, il y a 2000 ans, jeune fille, fiancée avec Joseph, tu vas être enceinte, hein? Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Oh ! Mais non, c'est pas possible. Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Et regardez bien verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes mort, vous êtes prisonnier, vous êtes condamné. Dieu aujourd'hui tient ce cadeau. Et il dit, c'est pour toi, c'est ça Noël, non? Le cadeau que nous ne méritons pas, le cadeau que nous n'attendons plus, le cadeau que nous avons renoncé. Merci. À la place de la colère, Dieu donne la vie. À la place de la captivité d'une puissance étrangère, Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. À la place de la torpeur dans le péché, de la crainte, Dieu nous montre l'infinie richesse de sa bonté. Oh, c'est pas un cadeau de Noël? C'est pas le plus beau cadeau que je puisse recevoir? Qu'est-ce qui me manque? La foi? La patience? Le pardon? La paix? L'amour? La vie éternelle? L'acceptation qu'il est là tout le temps? L'espérance? C'est le cadeau de Dieu. Et c'est ce qu'il veut donner à chacun de ses enfants. Pas à une élite, pas à quelques-uns, mais à chacun de nous. « quand on déballe, on revient, on dit « J'étais mort, mais Dieu m'a fait vivre. J'étais captif, mais Dieu m'a libéré à ses frais. C'est pas mes impôts et mes taxes qui ont payé. J'étais enfant de colère, mais Dieu a promis de passer l'éternité à déballer ses richesses. » Vous n'avez pas envie d'y être. Vous n'avez pas envie d'être avec ce Dieu merveilleux qui ne va pas nous regarder du haut en disant « Eh ben dis donc, quelle vie t'as mené sur cette terre ?» Mais plutôt, tu vois pourquoi je t'ai sauvé ? Tu as vu où tu étais ? Je t'aime. Notre Dieu, lorsqu'il vient nous offrir ce cadeau, il ne nous dit pas tout ce que nous n'avons pas fait. Il ne vient pas nous reprocher notre passé, nos difficultés, notre manquement, parce que c'est pour ça qu'il est mort. Mais il vient nous dire, regarde, regarde ce que je te prépare. La corruption du péché était si profonde que nous n'avions aucune inclinaison spirituelle du tout. Nous ne cherchions pas Dieu. L'immoralité, le rejet de Dieu, la religiosité même, faisaient de nous des condamnés. Il n'y avait rien de bon en nous. Vous pouvez répéter ça ? Il n'y avait de rien de bon en nous, rien. Si vous en êtes plein convaincu, je veux bien en discuter avec vous après le culte. C'est une réalité sur laquelle il faut qu'on aille. Il n'y avait rien de bon. Mais Dieu, finalement, le verset de Noël, c'est pas Matthieu chapitre 2, c'est pas Luc chapitre 2, mais c'est peut-être Éphésiens 2, 8. Oui, sa grâce seule est la source de mon salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi, rien ne vient de vous. Rien ne vient de vous. Mais tout vient de Christ. Tout est cadeau de Dieu. Tout est cadeau. Quand vient la fin d'année, à ceux qu'on aime le plus, Pierre l'a dit, on fait les plus beaux cadeaux. À ceux qu'on aime le moins, on fait des plus petits cadeaux. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il a décidé de faire le même cadeau à tous. Il n'a pas de favori. Il n'a pas certains où il dit « Oh, ceux-là, ils sont tellement gentils. » Puis ceux-là, ils sont moins gentils. Dieu veut rebâtir notre confiance avec ce cadeau. Dans Philippiens 4, 19, il dit « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Besoin, pas envie. Besoin, pas envie. Dans le psaume 84, verset 11 ou 12, il est marqué « Car l'Éternel est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Wow ! Dieu, quand il fait le cadeau, il dit « Regarde, dans la boîte, il y a encore plein de choses. » Il y a encore plein de choses. Dans Romains 12, 19, il dit « Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés. » Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est Dieu qui s'occupe de nos affaires. C'est lui notre avocat. C'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Voyez, Dieu est ce Dieu tout-puissant, ce Dieu grand. Ce Dieu qui ce matin vient avec un cadeau une fois, comme chaque dimanche, chaque jour même. Hein, chaque jour de notre vie, il est là, il dit « Je me tiens à la porte, j'ai un cadeau pour toi. » Chaque matin qu'on ouvre les yeux, on dit « Seigneur, journée de grâce, un cadeau nouveau. » Alors qu'en est-il de notre vie ? Une vie de religion ? Oh, je vais à l'église tous les dimanches. Mais je vis dans le péché. Ou alors, je n'ai plus aucun espoir. J'ai croisé une personne cette semaine qui m'a dit, qui vit dans l'Essonne, et qui me dit, je viens là, je viens à Paris, à Notre-Dame, pour prier tous les jours que Dieu intervienne. Et j'ai dit, dans votre vie? Oui. Vous habitez où? Grigny. J'ai dit, vous savez, il y a des choses beaucoup plus proches. Et j'ai dit, vous savez, Dieu, il est beaucoup plus proche que... C'est pas la peine de prendre le métro pour le rencontrer. Vous pouvez le rencontrer aussi chez vous, à côté de chez vous. Faites des économies. Dieu a déjà payé. Faites des économies. Dieu a déjà payé. Dieu vous offre sa vie. Et regardez, j'ai rajouté sa qualité de vie, son pardon, ses richesses. Il est prêt à déballer le paquet pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Invitez-le. Invitez-le. Que Dieu nous... En faisant ce message, je voulais juste nous rappeler de la réalité des choses, de la vraie photographie de notre vie sans Christ et de la qualité de vie que Dieu nous offre. Il veut passer son éternité avec nous. Pierre l'a dit ce matin. Je serai tous les jours avec vous. Et plus que ça, il dit, tu verras, je veux te montrer toute ma richesse. Pas un Dieu qui va nous imposer des lois. Pas un Dieu qui va nous reprocher sans arrêt nos péchés. Mais au contraire, un Dieu qui va nous montrer son amour. Moi, j'aimerais nous mettre ce défi devant nous. Ça ne va pas faire de bruit si je fais ça. Quand Dieu nous offre ce cadeau, la Bible dit que lui, il est venu du ciel sur la terre. Il est venu à notre rencontre. Et on pense toujours qu'on n'a rien à faire, que le colis va nous être délivré devant notre porte. C'est vrai ? Il le dit lui-même, hein, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... entends la voix et quelqu'un ouvre la porte. Voilà, vous finirez par le connaître. C'est un magnifique verset, hein ? Verset qui a changé ma vie il y a 30 ans. Mais moi, ce matin, j'aimerais dire à ceux et celles qui n'ont pas ce cadeau, à ceux et celles qui, dimanche après dimanche, peut-être se posent la question, mais ça va venir quand ? Pas de leur dire que peut-être... Ce 21 décembre, c'est le jour du cadeau. Et ce cadeau, il n'est pas offert par l'église évangélique Le Phare. Il n'est pas offert par le pasteur, par qui que ce soit. Nous sommes juste là pour rappeler qu'il est offert par Jésus-Christ. Et que c'est son cadeau. Mais alors qu'on va prier, on va baisser nos têtes, moi je veux proposer que vous veniez chercher ce cadeau. Prendre un cadeau, des fois, ça coûte. Ça veut dire se déplacer. Ça veut dire, si Dieu est venu jusque-là, moi, je peux faire ces quelques pas pour aller jusqu'à lui, pour aller à sa rencontre. Alors, on va baisser nos têtes. Et peut-être, on est dans cette catégorie de personnes qui vit dans le péché. Cette catégorie de personnes qui a déjà essayé plein de choses, mais se sent esclave, se sent incapable. Et vous avez raison, vous en êtes incapable. Mais Dieu ce matin, mais Dieu, vous rappelez, hein, c'est le thème majeur du message ce matin, mais Dieu. Mais Dieu ce matin est prêt à vous offrir tout ce qu'il y a dans la boîte et à passer l'éternité avec vous pour vous montrer. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, dans l'assistance, qui a envie de ce cadeau ? Quelqu'un qui reconnaît dans son cœur, je ne le mérite pas. Quelqu'un qui reconnaît bien, je suis pécheur perdu. Mais quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, et ce cadeau, je le veux. Je le prends. Mais je ne prends pas le cadeau, je te prends avec lui. pour que toi tu me montres jour après jour l'infinie richesse de ta bonté. Alors mes amis, le cadeau est là. Il vous attend. Y aurait-il quelqu'un ce matin ? Les autres gardent leur tête fermée, leur tête baissée. C'est entre chaque personne et Dieu. C'est pas vis-à-vis de nous. Même si vous voulez oublier qu'on est là, Dieu est là. Dieu est dans notre cœur, dans notre vie, mais aujourd'hui il vous offre ce cadeau. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait prendre ce cadeau ? Quelqu'un qui dirait, je veux quitter cette situation, je veux abandonner. Je veux aller vers ce Dieu, je veux l'adorer, comme les mages. Quelqu'un veut le faire ? Un jeune, un moins jeune ? Oui ? Alors il ne faut pas juste lever la main, il faut venir chercher le cadeau. Quand Dieu il demande de... Voilà. Dieu il nous authentifie. Voilà. Peut-être falloir le partager, le cadeau, j'espère. Voilà. Montez. Voilà. Très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? On garde les yeux fermés, mes amis. On n'est pas comptable de ce que Dieu fait. C'est Dieu qui le fait. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait partager le cadeau avec Christian ? Il est prêt à le partager, il a dit. Il a un cœur ouvert. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui veut que cette fête de Noël brille pour l'éternité. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que ce matin, ce cadeau a pu changer une vie, transformer une vie, Seigneur, au point de ce que Christian était mort et il est vivant. Seigneur, tu fais de cette journée une journée de joie pour ton Église. Tu fais une journée de joie parce que ce cadeau à grand prix a été accepté. Merci Seigneur de bénir sa vie, de bénir tout ce qu'il a à faire, de découvrir Seigneur les nouveaux pas dans la vie, que nous soyons en tant qu'Église un centre d'accueil pour l'entourer, pour l'aimer, pour le conduire, non pas pour le juger. Merci Seigneur parce que chaque dimanche dans ton Église ici, tu accomplis des miracles. Chaque jour, chaque dimanche, ta parole ne revient pas sans effet. Et nous te louons, Seigneur, de ce que tu continues de nous utiliser pour accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme on a l'usage de faire, mes amis, quand quelqu'un arrive dans une famille et quand il s'authentifie, le meilleur moyen, c'est quand même de le applaudir. Bienvenue. Je te donne la boîte. Voilà, tu l'emmènes chez toi si tu veux. Si ça peut te rappeler que c'est le cadeau de Dieu.
Je partage avec tout le monde.
Voilà. Que Dieu nous aide à être très pratique dans notre vie et à montrer que nous n'avons pas un Dieu oublieux. Amen.